Vous écoutez, on lit pour vous.
Le TFT, premier théâtre au Canada avec des surtitres, il y a 20 ans. Un texte d'Anaïs Desjardins paru le 13 décembre 2024 dans Le Devoir. 13 avril 2005, Toronto. Guy Mignot s'apprête à fouler les planches pour la première du Bourgeois gentilhomme. L'excitation est palpable. C'est la première fois que des surtitres sont projetés pendant une pièce de théâtre au Canada. Et il voulait être de la partie pour voir la réaction des spectateurs. Riront-ils au même moment? Les surtitres respecteront-ils le rythme de la pièce? La réponse est oui. Et ce, depuis maintenant 20 ans. C'est que le succès a d'ailleurs été adopté ailleurs. Pendant l'heure et quelques qui suit, les surtitres défilent sur des écrans placés des deux côtés de la scène au-dessus du décor. Près de 20 ans plus tard, Guy Mignot s'en souvient comme si c'était hier. Celui qui a été directeur artistique du théâtre pendant 19 ans jouait alors le rôle principal. Dès la première représentation, il se rend compte du potentiel de l'idée du surtitrage. Preuve à l'appui, le téléphone a sonné plus d'une fois pour demander des conseils de leur part. Depuis, plusieurs théâtres ont adopté la pratique. Dans un contexte minoritaire comme à Toronto ou dans la province, où la francophonie ne représente qu'un petit pourcentage de la population, c'est d'autant plus important. Fondé en 1967, le Théâtre français de Toronto est le seul théâtre francophone et francophile de la ville qui n'abrite ni maison de la francophonie ni de lieu voué à la culture francophone aux grandes dames des citoyens. Un défi d'adaptation. C'est Diane Simard Broadfoot, une membre du conseil d'administration, qui propose l'idée en 2005. Le tout naît d'une collaboration. Ça ne sert à rien de réinventer le bouton à quatre trous, juge M. Mignot. Le TFT contacte le Canadian Opera Company, le premier opéra au monde à avoir mis en place des surtitres en 1983. Le défi fut différent. En opéra, le rythme des surtitres était basé sur le tempo de la musique. Au théâtre, ce devait être en fonction du jeu des acteurs. C'est du moins ce qu'a constaté Gunta Dreyfields, productrice adjointe à l'opéra et chargée des surtitres depuis la première représentation de surtitrage. C'est la deuxième compagnie préférée pour laquelle j'ai travaillé après le Canadian Opera Company. Il a pris un risque avec moi, puisqu'il a accepté mon français terrible et m'a fait entrer dans la famille du TFT, dit-elle. Elle traduisait les textes et s'assurait que le tempo de la musique soit respecté. À l'époque, les surtitres sont sur 6 carousels projetés à tour de rôle sur le plafond. Aujourd'hui, ce sont des projecteurs. L'idée a révolutionné l'opéra. On pouvait apprécier le spectacle, estime M. Dreyfields. Cela avait ouvert aux téléspectateurs une toute nouvelle façon de consommer l'opéra en temps réel et un nouveau répertoire dans d'autres langues. Un pari réussi, une audience grandissante. L'ambition du TFT était la même et le pari est réussi. Ça a créé une boule de neige qui a finalement grandi et plusieurs théâtres ont emboîté le pas, en dépit des craintes initiales des gens du milieu qui jugeaient l'idée sacrilège, explique-t-il. Et preuve du succès de l'initiative depuis mars 2022, des lunettes connectées avec surtitres multilingues sont également remises gratuitement aux spectateurs anglophones et malentendants. C'est qu'avec le temps, le public a grandi et s'est transformé avec l'arrivée des surtitres. M. Mignot a été aux premières loges pour le constater. C'est qu'il a toujours souhaité la bienvenue au public avant la pièce. C'était comme si j'invitais les gens à venir s'asseoir dans mon salon et qu'on s'assoyait les pieds sur la bavette du poêle et qu'on disait « Venez vous asseoir, je vais vous en conter une bonne ». Et aujourd'hui, des sourds-muets, des couples bilingues et des anglophones sont de la partie, de sorte que le TFT cherche aujourd'hui une nouvelle salle de théâtre, plus grande cette fois. on ne fait pas du théâtre de la même façon que les anglophones. On pense avec le cœur avant la tête. Et quand certains voient ça, ils viennent nous voir, atteste M. Mignot, qui juge que le futur réside dans la mixité. C'est qu'au TFT, les gens ne viennent pas uniquement pour assister aux pièces, mais bien pour se rassembler et discuter. On avait essayé de couper les entractes, mais les gens nous ont dit qu'on leur enlevait la chance de socialiser, illustre-t-il. À ce jour, c'est d'ailleurs l'une de ses plus grandes fiertés. Les surtitres marchent encore et continuent d'aider le théâtre à raconter ses histoires au plus grand nombre possible, estime-t-il. C'était le TFT, premier théâtre au Canada avec des surtitres, il y a 20 ans. Un texte d'Anaïs Desjardins paru le 13 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les contraventions bidons au sommet des plaintes. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 22 décembre 2024 dans la presse. Année après année, les entreprises qui suscitent le plus grand nombre de plaintes à l'Office de la protection du consommateur, OPC, sont presque toujours les mêmes. Tellement que vous pourriez sûrement les nommer sans trop vous tromper. Mais en 2024, le sommet du palmarès est occupé par une PME de Laval dont personne n'avait entendu parler il y a un an. Avec ses contraventions bidons, Statpark est l'entreprise qui a suscité le plus d'appels à l'OPC dans la dernière année. Elle a surpassé Tanguay, un détaillant habitué à la première place de ce classement, et même Amazon et Walmart, malgré leur volume d'affaires très élevé. C'est exceptionnel qu'une PME inconnue se retrouve tout en haut. Le porte-parole de l'OPC, Charles Tanguay, pense que c'est la première fois, m'a-t-il dit. Cette pluie de plaintes s'explique par un dossier publié par le Journal de Montréal en décembre 2023. Le journaliste Francis Pilon y levait le voile sur les pratiques douteuses de trois entreprises, Statpark, Maxpark et Paypark, qui gèrent de nombreux stationnements, notamment ceux du 10-30 à Brossard, des Galeries Laval et du marché Jean Talon. Des centaines d'automobilistes qui y garent leurs voitures ont découvert, sous leurs essuie-glaces, une facture ressemblant à s'y méprendre à une contravention. Cette stratégie, qui peut intimider, est interdite. En vertu de la loi sur le recouvrement de certaines créances, nul ne peut utiliser un écrit susceptible d'être confondu avec un document officiel délivré par un tribunal, un gouvernement ou une municipalité. Quand on y pense, ces contraventions bidons ne devraient pas semer l'émoi. Les entreprises n'ont aucun moyen de retrouver les propriétaires des voitures. Comment voulez-vous qu'elle fasse le lien entre l'immatriculation et l'adresse du domicile pour se faire payer? Les trois gestionnaires montrés du doigt distribuent des factures parce que les automobilistes abusent des stationnements en les utilisant pour prendre le métro ou le REM, par exemple. C'est fort possible, mais ça ne justifierait pas l'utilisation de faux tickets de 69 $ qui grimpent à 99 $ après 30 jours dans le cas de Maxpark. La loi, c'est la loi. Cela dit, l'autre option serait le remorquage immédiat des véhicules, ce qui vient avec une facture et des inconvénients encore plus pénibles que le sentiment d'être berné. Alors, à choisir, l'autre hic, c'est qu'une pluie d'appels à l'OPC n'a pas toujours d'impact sur les entreprises concernées. Pendant que l'organisme fournit aux plaignants une trousse et des conseils pour faire valoir leurs droits, un service précieux, rien n'empêche les délinquants de maintenir leurs pratiques. Les plaintes ne se transforment pas automatiquement en amendes. L'OPC peut donner des constats d'infraction dans le cadre de poursuites pénales, mais Statpark y a échappé jusqu'ici et elle continuerait de distribuer ses factures à l'apparence trompeuse. Encore le secteur automobile. En tout, l'OPC a reçu 28 076 plaintes en 2024, ce qui représente une hausse significative de 12 % pour une raison inexpliquée. Les vendeurs de véhicules d'occasion n'ont pas encore réussi à améliorer leur position dans le classement. Avec plus de 5 000 plaintes, plus 56 % depuis 2 ans, ils sont demeurés au sommet du palmarès par domaine de consommation. Les concessionnaires de voitures neuves ont grimpé d'un rang. L'OPC émet l'hypothèse que les consommateurs connaissent mieux les pratiques interdites, notamment en matière de frais ajoutés aux factures grâce aux actions collectives qui ont fait les manchettes et provoqué la distribution de coupons de 75 $. Il est permis de croire que les concessionnaires feront meilleure figure l'an prochain. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, CCAQ, a promis à l'automne qu'elle se dotera d'un nouveau code d'éthique pour regagner la confiance des automobilistes. De plus, ses 890 membres devront participer au système gratuit de médiation en ligne Parle de l'OPC dès janvier 2025. Il sera très intéressant de voir si ces actions porteront leurs fruits et amélioreront les pratiques de cette industrie. Les autres domaines où les factures sont importantes, gros électroménagers, meubles, construction, rénovation, continuent de susciter un plus grand nombre de plaintes que des secteurs où les enjeux sont moins onéreux. L'alimentation fait exception. Pour la deuxième année de suite, cette industrie a fait plus de mécontents qu'en temps normal. Selon Charles Tanguay, de l'Office de la protection du consommateur, l'inflation rend les consommateurs moins tolérants pour tout ce qui affecte le prix des aliments. Ils sont aussi plus attentifs à l'égard des prix annoncés et des erreurs de prix. Encore ici, de nouvelles mesures devraient améliorer l'expérience des clients. À compter de mai 2025, de nouvelles règles concernant l'affichage des prix entreront en vigueur. Les détaillants devront clairement indiquer si un aliment est taxable ou non, tandis que le prix de vente pour les non-membres d'un programme de fidélisation devra être clair, entre autres changements. À mesure que le commerce en ligne progresse, les problèmes de livraison font de plus en plus de mécontents, comme le démontre le bond de 20 % des plaintes. Même le roi de l'efficacité, Amazon, en échappe. Le géant américain est passé du 5e au 3e rang des entreprises ayant suscité le plus de plaintes, mais peut tout de même se targuer de n'avoir eu que 346 clients insatisfaits, ce qui est très peu compte tenu du nombre de transactions dans une année. Même si dans le grand ordre des choses, les problèmes de consommation ne sont pas les plus pénibles, le sentiment de se faire avoir gruge de l'énergie et du temps. Puisque certaines pratiques méritent d'être dénoncées ou examinées, racontez-moi ce qui vous a exaspéré. Vos mésaventures m'intéressent toujours. C'était « Les contraventions bidons au sommet des plaintes », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 22 décembre 2024 dans La Presse.
La journaliste Suchane Bacon reçoit la médaille du couronnement du roi Charles III. Un texte de la rédaction, paru le 13 décembre 2024 dans Espaces autochtones. La journaliste d'Espaces autochtones, Suchane Bacon, a reçu jeudi la médaille du couronnement du roi Charles III lors d'une cérémonie à Québec, présidée par la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Janotte. Au total, 57 citoyens et citoyennes de la capitale nationale, dont 8 autochtones, ont reçu cette distinction lors de l'événement qui, citation, « vise à souligner les contributions exceptionnelles de ces personnes, dont plusieurs œuvrent dans l'ombre, ayant un impact significatif sur leur communauté, leur province et parfois même sur le plan national et international ». Fin de citation. Le bureau de la lieutenante-gouverneure souligne que cette distinction est, citation, « remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne ». Fin de citation. Citation, « par votre plume et votre courage, vous donnez une voix aux communautés autochtones éclairant leurs défis et leurs aspirations. Votre travail journalistique contribue à une meilleure compréhension et rapproche les peuples dans un esprit de respect et d'inclusion. » Fin de citation, a déclaré Manon Janotte en remettant la médaille à Shushan Bakon. Citation. « Je suis très fière d'avoir obtenu cette médaille pour la reconnaissance de mon dévouement à amener le micro dans les communautés autochtones à travers le Québec. J'aime entendre et comprendre les enjeux qui concernent les communautés pour ensuite les raconter avec respect et humilité. » Fin de citation, a indiqué pour sa part la journaliste d'Espaces autochtones. Citation. « Le journalisme est un rêve d'enfance. » Trop souvent, j'ai fait face à des obstacles qui m'ont éloigné de ce rêve. C'est à 40 ans que la vie m'a permis d'avoir l'honneur de raconter des histoires se rapportant aux enjeux autochtones. Même si je suis une Inuishkwiu, une femme Inu, moi aussi j'ai le droit de bien raconter nos histoires. » Fin de citation, a dit Shushan Bakon. Après avoir travaillé pendant près de 4 ans au Réseau de télévision des peuples autochtones, RTPA, plus connue sous le sigle anglais APTN, Shushan Bakon a rejoint en juillet dernier l'équipe d'Espaces autochtones à Radio-Canada. L'affaire de Joyce Echaquan, morte sous les insultes de membres du personnel de l'hôpital de Joliette le 28 septembre 2020, a agi comme un déclic chez elle et l'a amenée à travailler dans le domaine du journalisme. Depuis, elle va régulièrement à la rencontre des gens pour recueillir leurs témoignages qui ne sont pas tout le temps faciles à entendre. C'était la journaliste Shushan Bakon reçoit la médaille du couronnement du roi Charles III, un texte de la rédaction paru le 13 décembre 2024 dans Espaces autochtones.
Dominique Fontaine-Lanier, Un moderne chez les anciens. Un texte d'Elsa Pépin, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Personnage excentrique, jésuite antidogmatique et philosophe dilettante dérangeant à l'époque de la Grande Noirceur, François Hertel est une figure méconnue de l'histoire des idées au Québec. Un penseur qui a piqué à juste titre la curiosité du professeur de philosophie Dominique Fontaine-Lanier, qui lui consacre un inspirant essai, Le legs d'un philosophe amateur. François Hertel, 1905-1985, pseudonyme de Rodolphe Dubé, a presque disparu des mémoires et des librairies, alors qu'il a publié 42 livres, marqués bon nombre de personnages importants de notre paysage québécois, de Pierre-Éliott Trudeau à Jacques Ferron, en passant par Gérald Godin et Pierre Vadeboncœur, fréquenté les peintres Bordua, Alfred Pellan et Fernand Léger, défendu l'art abstrait à une période où ce n'était pas encore à la mode. À contre-courant de son époque, dépassant les cadres que le clergé exigeait, Hertel défroquera des jésuites et finira sa vie en exil, en France, dans la précarité. Cet esprit libre, grand sceptique et se revendiquant amateur en tout, est non seulement intéressant à lire, mais, aux yeux de Fontaine-Lanier, remet en cause l'idée même d'une grande noirceur monolithique à laquelle suivrait soudain la Révolution tranquille. Celui qu'il définit dans son essai comme « l'un des plus fervents esprits libres que le Québec ait connu avant la Révolution tranquille » est un homme qui riait dans une époque qui m'apparaissait plutôt sérieuse, qui osait rire de choses dont il ne fallait pas rire, qui n'appartient à aucune école et ne s'est jamais figé, me raconte le professeur de philosophie au collégial, interpellé par le rapport qu'Hertel avait avec ses étudiants. Il se met en autodérision et aide le disciple à s'émanciper, raconte-t-il. Loin de l'idéalisation du maître, l'enseignement d'Hertel rejoint sa pensée philosophique personnaliste. Proche de l'existentialisme, le personnalisme est basé sur l'injonction du respect de la personne qui consiste à vouloir le bien de chacune, aussi humble soit-elle, en l'encourageant à devenir ce qu'elle est. Hertel développe une philosophie intuitive, partant de l'a priori que la réalité et la vie sont souples, que si on les fige avec des mots, on va forcément les trahir. Comme les existentialistes, on trouve chez Hertel un souci de revenir à l'existence concrète de l'individu qui vit ses propres conflits que personne ne peut prendre à sa place. Le rapprochant de Montaigne et des philosophes de l'Antiquité gréco-latine, Fontaine-Lanier présente la pensée d'Hertel comme un art de vivre qui vise à rester maître de soi-même, sceptique et humble. Il nous montre le parcours d'un individu qui doute, notamment dans son très beau journal d'Anatole Laplante. Plus qu'une posture philosophique, le doute chez Hertel concerne l'incertitude existentielle de chacun. L'être humain est intéressant quand il change d'idée, affirme Fontaine-Lanier, mais pour se remettre en question, il faut avoir confiance en soi. Ce paradoxe est à l'œuvre chez Hertel. Ses œuvres, parfois peu maîtrisées, rejoignent sa manière d'enseigner le doute. Si on sait qu'on a une valeur, on peut se remettre en question. Rejoignant donc des courants philosophiques anciens, Hertel n'en demeure pas moins très avant-gardiste. Par son rire, son audace et sa désinvolture, Hertel a pavé la voie à la modernité québécoise, écrit Fontaine-Lanier, ne cachant pas les maladresses de son écriture et les nombreuses répétitions qu'on lui a souvent reprochées d'un livre à l'autre, mais attirant l'attention sur la dimension auto-fictive de son œuvre, franchement novatrice pour les années 1940. Rappelons que tous les livres d'Hertel comportent une partie autobiographique. Qu'un philosophe se mette en scène fait du bien, précise l'essayiste, qui s'est lui-même permis d'inclure un chapitre plus personnel dans son essai où il se met lui aussi en scène. On a accès à la réalité et à l'intimité d'Hertel dans ses écrits, pas seulement à une pensée détachée de lui. Avec un goût pour des opinions parfois à l'emporte-pièce et des pratiques non orthodoxes, il emmènera sa classe de Brébeuf visiter Nelly Gant à l'asile. Hertel apparaît comme un ovni à son époque, mais pas non plus complètement détaché des valeurs chrétiennes. « J'ai tué les absolus, les idoles creuses. Je ne suis plus que moi, sans voile et sans phare », écrit Hertel, qui abandonne l'humilité chrétienne pour l'humilité cosmique, sans prétention à la vie éternelle. Dans son individualité, Hertel exprime bien notre parcours au Québec. On s'est sécularisé, on n'est plus de fervent catholique et on cherche une spiritualité plus littéraire, artistique et sans dogme. Braquant la lumière sur un personnage audacieux et sceptique à l'ère des croyances et de l'obscurité, l'essai de Fontaine-Lanier remet en question l'idée selon laquelle l'émancipation culturelle, intellectuelle et spirituelle du Québec serait apparue d'un coup à la Révolution tranquille. Elle a eu ses précurseurs, des individus comme Hertel qui ont vogué seuls à contre-courant de leur époque, y sacrifiant leur réputation et leur prospérité, et qui méritent tout notre respect, en héritiers et héritières que nous sommes tous de libres penseurs comme lui. Les incontournables. Dans la bibliothèque philosophique de Dominique Fontaine-Lanier, on trouve des sources d'inspiration pour penser sa vie à l'heure hyper branchée du virtuel et de l'IA où l'on n'a peut-être jamais senti, paradoxalement, à quel point on est déconnecté du monde, de la nature et des autres humains. Il cite d'abord « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» de Pierre Hadot, « la plus passionnante introduction à la philosophie que j'ai pu lire », précise-t-il. La philosophie n'y est pas définie comme un art de théoriser le monde, mais comme un art de vivre à la hauteur de ses idées. Suit la philosophie aujourd'hui un plaidoyer de Marco Jean. le meilleur plaidoyer qui existe en faveur de l'enseignement de la philosophie. Il suggère aussi « Femme philosophe, 21 destins de combattantes » de Maya Ombazic, un panorama fascinant des femmes philosophes, si peu représentées dans l'enseignement de la philosophie, qui leur donne la parole et met en évidence le combat central de la vie de chacune. Sa bibliothèque idéale se compose aussi de livres marquants pour comprendre notre époque, à commencer par « Conditions de l'homme moderne » d'Anna Arendt, qui cerne le grand renversement de valeurs qui a conduit à accorder toute la place au travail plutôt qu'à l'action et à l'œuvre. Suit « Trouble dans le genre ou défaire le genre » de Judith Butler, qui, dans la continuité des travaux de Simone de Beauvoir, définit le genre comme une performance plutôt qu'une essence fixe, ouvrant ainsi la voie à une déconstruction des normes et des systèmes d'oppression. Il suggère également, pour une auto-histoire amérindienne de George E. Siwi, qui suggère que les Euro-Américains pourraient à leur tour se laisser influencer par la sagesse du cercle sacré de la vie, qui est une forme d'écologie profonde dont nous avons tant besoin à l'heure actuelle. Finalement, il suggère « Remède à l'accélération » d'Armut Rosa, pour qui la meilleure réponse au mot de ce qu'il appelle « notre modernité tardive » dans laquelle tout s'accélère, serait la résonance, qui implique de se réattacher au monde, aux personnes qu'on rencontre, à la forêt dans laquelle on va marcher. Les essais trônent également dans sa bibliothèque idéale. Par exemple, un coffret des essais de Henri-David Thoreau, dont « Teinte d'automne », parfait pour se reconnecter à la beauté de la vie, même dans la fin de son cycle. Plus proche de nous, on trouve « Je ne sais pas croire » de Jeremy McEwan, qui se questionne sur le sens de la croyance aujourd'hui, ainsi que la collection « Documents » chez Atelier 10, liée à la revue Nouveau Projet. Des essais philosophiques souvent très divertissants, parmi lesquels il cite « Les engagements ordinaires » de Melika Abdelmoumen et « La philosophie à l'abattoir » de Christiane Bellé et Jean-François Labonté. C'était Dominique Fontaine-Lanier, Un moderne chez les anciens, un texte d'Elsa Pépin, paru le 21 octobre 2024 dans Les libraires.